Commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va être consacrée aujourd'hui aux États-Unis, parce que beaucoup d'événements qui se produisent sur place nous sollicitent. Et donc nous avons avec nous aujourd'hui Laurence Nardon. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Laurence Nardon est responsable du programme Amérique de l'IFRI, l'Institut français de relations internationales. Et elle anime aussi chaque semaine un podcast intitulé New Deal, qui est consacré aux affaires américaines, qui est une coédition entre l'IFRI et Slate, slate.fr. Merci Laurence donc d'être avec nous. Il y a au moins trois événements sur lesquels on voudrait votre science des États-Unis, si j'ose dire. C'est d'abord le revirement des Républicains, parce qu'on se souvient que l'aide à l'Ukraine était bloquée, non pas au Sénat, mais à la Chambre des représentants par le veto des Républicains. Veto, j'allais dire, décrété par Trump, qui pourtant n'est pas élu, mais qui a un poids suffisant auprès des Républicains pour les empêcher d'approuver. Et puis tout d'un coup, voilà que une bonne moitié des Républicains de la Chambre des représentants votent et donc libèrent l'aide prévue par Joe Biden à l'Ukraine. Et donc l'Ukraine peut respirer et reprendre confiance, alors que vraiment cette confiance commençait à faire défaut en Ukraine. Ça, c'est la première chose. L'autre, c'est évidemment le feuilleton quotidien qui est devenu le procès de Donald Trump, avec un problème soulevé auprès de la Cour suprême qui est de savoir si Donald Trump peut être poursuivi ou si, en raison de son immunité, il est protégé. Donc ça, c'est aussi un deuxième événement. Et puis, il y a la situation sur un certain nombre de campus universitaires aux États-Unis qui sont traditionnellement le lieu de la protestation, mais où là, il y a des affrontements entre pro-palestiniens et pro-israéliens qui prennent une tournure assez choquante et dévastatrice parfois, parce qu'on est au seuil, sinon même en plein antisémitisme, de la part de certains manifestants. Donc ça crée une situation très confuse sur les campus et ça peut avoir évidemment une incidence électorale sur la bataille entre Joe Biden et Donald Trump, sur laquelle on fera le point également. Donc, première question pour vous, Laurence, c'est qu'est-ce qui explique ce revirement soudain des Républicains? Est-ce le poids propre du président que se sont donné les Républicains à la Chambre des représentants, qui finalement aurait été convaincu par les signaux alarmistes donnés par les services de renseignement américains sur la situation militaire sur place, qui faisait craindre une défaite de l'Ukraine? Est-ce cela ou est-ce le revirement de Trump lui-même? On ne sait pas. Ou peut-être le savez-vous, Laurence Nardon?
Alors, je vais essayer d'être synthétique parce que les trois thèmes que vous nous proposez sont quand même tous les trois très, très importants. Sur cette question d'aide à l'Ukraine, elle était en effet bloquée à la Chambre depuis octobre dernier, donc il y a eu tout un tas de rebondissements. Mais ce qui s'est passé à partir de samedi dernier, c'était le 20 avril, lorsque la Chambre a en effet voté, c'est que les divisions au sein du Parti républicain sur les questions de politique étrangère se sont étalées de manière tout à fait visible pour tout le monde. Le Parti républicain aujourd'hui, en tout cas les élus républicains à la Chambre, sont divisés en deux camps, plus ou moins. Il y a un camp qui est traditionnel, attaché à la défense de la démocratie, donc à la défense de l'Ukraine, et qui était favorable au vote de cette aide. Et ce sont les 101 élus républicains qui ont accepté de la voter samedi dernier, il y a une semaine. Et puis de l'autre côté, l'autre moitié du Parti républicain, ceux qui ont voté contre, ils sont 112, eh bien il est divisé en deux. Alors, c'est un petit peu flou, parce que tout le monde n'est pas forcément dans un camp ou un autre, mais enfin, en gros, il y a deux tendances au sein de ces élus républicains qui ont voté contre. Il y a une tendance plutôt isolationniste, des gens qui pensent que les États-Unis doivent cesser de s'occuper du monde entier et puis s'occuper de eux-mêmes, comme par exemple, alors ça, c'est pas un élu de la Chambre, c'est un sénateur, mais J.D. Vance, sénateur de l'Ohio, il est clairement très isolationniste. Et puis, il y a une autre partie de ces opposants républicains à l'aide à l'Ukraine qui sont vraiment carrément des pro-russes, qui relayent la propagande poutinienne. Je vais juste vous donner un exemple parce qu'il est vraiment frappant. Il y a cette élue de Géorgie qui s'appelle Marjorie Taylor Greene. Oui. Depuis le début, elle est opposée à l'aide à l'Ukraine, etc. Et elle relaye vraiment des points de propagande totalement obscurs. Notamment, ces dernières semaines, elle avait demandé que dans cette loi d'aide à l'Ukraine, il y ait un amendement qui oblige pour que cette aide soit versée, à ce que la politique linguistique dans la région de Transcarpathie, qui est une région de l'ouest de l'Ukraine, soit révisée. À l'heure actuelle, en Transcarpathie, tous les enfants doivent apprendre la langue ukrainienne, y compris les enfants de la minorité hongroise. Et elle voulait, dans cet amendement, que cette règle soit supprimée comme condition au versement de l'aide américaine. Comment Marjorie Taylor Greene peut-elle avoir entendu parler de cette histoire de politique linguistique en Transcarpathie ? C'est très clairement un élément de propagande, alors soit russe, soit hongrois d'ailleurs.
Oui, Jean-Claude.
Elle est peut-être d'ascendance hongroise.
Je ne suis pas au courant dans ce cas-là.
C'est une société hétérogène des États-Unis. Non, je trouve que c'est très important parce que c'est le retour à la politique bipartisane. Donc ça a une très très grande importance. La politique étrangère des États-Unis a toujours été bipartisane. Et donc Biden remet sur les rails une tradition que Trump violait ouvertement, qu'une grande décision de politique étrangère concernant l'Ukraine et indirectement concernant Israël et Taïwan et les problèmes de sécurité ait été bloquée par Trump uniquement, je pense, dans un motif électoral pour affaiblir Biden sans autre préoccupation. Alors, quelles ont été les motivations de Mike Johnson? J'ai lu son discours, il y a un mélange de moralité et d'information. C'est-à-dire qu'il a pensé que c'était son devoir et que les informations dont il disposait. Le speaker, je ne sais pas, je crois qu'il est très élevé dans le rang, dans la hiérarchie de succession au président. Il doit être troisième ou quatrième.
Oui, absolument.
Et donc, il a accès à toutes les informations secrètes, si j'ose dire. Il est tenu informé puisqu'il peut être président.
Oui, il a un briefing des agences de renseignement, alors peut-être pas tous les jours, mais enfin très très régulièrement. Et vous avez raison, en fait, c'est un personnage, Mike Johnson, donc extrêmement à droite.
Donc le leader.
C'est le speaker, de la Chambre.
Le président de la Chambre.
C'est le speaker de la Chambre, donc républicain, puisqu'il y a en ce moment une majorité républicaine. Et vous avez raison, il explique qu'il a été convaincu par ses briefings que l'Ukraine était en très mauvaise posture, qu'il fallait vraiment les aider. Et c'est quelqu'un qui est très très à droite. Il est également très très religieux, donc c'est un profil un peu comme Mike Pence, c'est-à-dire il est d'une dénomination protestante très très réactionnaire. Mais en effet, c'est pas un cynique comme Trump, c'est-à-dire qu'il essaye de faire ce qu'il pense être bien. C'est quelqu'un qui a de la morale.
Alors que Trump, lui, en est largement dépourvu. In fine, Trump a l'air de s'être rangé à cette décision. Qu'est-ce qui...
Oui, alors ça, c'est très intéressant.
Son revirement.
Depuis le vote donc par le Congrès, par la Chambre, puis par le Sénat, et maintenant, maintenant Biden l'a signé, donc tout va bien, Trump s'est exprimé deux, trois fois dans les médias depuis, et en effet... très curieusement, il a tout à coup dit que finalement, c'était pas si mal que cette loi soit passée. Et il a parlé en bien du speaker Mike Johnson en disant que il avait fait ce qu'il devait faire et que c'était pas mal, que c'était un type bien. Et c'est totalement l'inverse du discours qu'il avait avant. Alors, c'est Trump, hein, donc il change d'avis. Je vois dans cette... dans ce changement d'attitude, du pragmatisme, finalement, c'est passé, donc autant y aller. Et puis, peut-être un respect de quelqu'un qui a été un winner, donc Mike Johnson, sur ce coup-là. Trump nous a habitués à être imprévisibles et à changer d'avis comme de chemise.
Alors là, il est en difficulté parce qu'il est devant un tribunal, une des nombreuses instances devant lesquelles il est convoqué. Et sa défense est assez simple. À chaque fois, il prend la parole pour dire « Tout ça, c'est un complot politique. C'est évidemment organisé par Joe Biden et c'est une histoire faite pour me détruire. » Mais est-ce que ces instances nombreuses peuvent aboutir, Laurence Nardon? Et est-ce que ça a une influence sur l'opinion américaine? Parce qu'on avait tendance à penser qu'à chaque fois qu'il était accusé ou mis à nouveau devant un tribunal, il gagnait des points dans l'opinion.
Oui, parce que son récit depuis le début, c'est comme vous l'avez rappelé, le fait de dire que tous ces procès sont une chasse aux sorcières organisée par les élites de l'État profond pour avoir sa peau, alors que lui est le vrai défenseur du vrai peuple américain. Donc en effet, c'est une sorte de processus par lequel chaque attaque finalement juridique ou judiciaire va le renforcer. Néanmoins, cette fois-ci, il est quand même sur le banc des accusés. Alors, la télé n'est pas présente, mais on voit des photos de lui où il est vraiment très sombre. Il a vraiment une sale tête.
Il a un peu changé de visage,
d'ailleurs.
Oui,
il a l'air atteint.
Il a changé de visage par rapport à ce qu'il montrait d'habitude.
On l'a vu aussi s'endormir pendant des plaidoiries ou des réquisitoires. Donc oui, il n'a pas une très bonne image. Donc peut-être que ce récit va moins fonctionner. Ça, c'est une première chose. Le reste, vous demandiez, est-ce que ça peut aboutir ? Aboutir à quoi ? À une condamnation ? Si jamais il est condamné, il fera appel. Donc, il pourrait être condamné à de la prison. Hein, parce que ça, dans la loi de New York, il y a quatre... Dans cette affaire Stormy Daniels, donc des paiements à une actrice pour qu'elle se taise. Donc ça, à la limite, il a le droit. Ce qui lui est reproché, c'est que ces paiements ont ensuite été présentés comme des frais juridiques. Et c'est là qu'il y a possiblement crime. Parce que c'est une violation de la loi fédérale sur le financement des campagnes, etc. Enfin, il y a plusieurs raisons juridiques. Il pourrait être condamné potentiellement à 4 années de prison par chef d'inculpation. Il y en a 34, ça fait 136 ans. Bon, ou alors il les fera tous d'un coup, ça ferait que 4 ans. Bon, on ne va pas aller plus loin dans les détails. Mais de toute manière, il fera appel. Donc, même s'il devait faire de la prison, ça ne serait pas avant l'élection ou même avant
du mois de novembre.
Quelques années. D'une manière générale, Trump, ou ses avocats en tout cas, ont été extrêmement efficaces à retarder les procédures dans tous les procès. Parce qu'on parle de celui-là, Stormy Daniels, mais il y a tous les autres. Et tout a été retardé de manière extrêmement efficace. Et il n'y a que ce procès-là qui se tient dans la campagne électorale. Tous les autres seront repoussés, on ne sait pas trop à quand.
Alors, il me semble que le président du tribunal, le juge qui y officie, a raccroché ce procès-là à d'autres instances, puisqu'il a expliqué qu'au fond, Trump était avant toute chose coupable d'avoir fomenté une insurrection, puisque c'est ça que le juge a mis en avant. Est-ce que tout cela peut aboutir, sachant, Jean-Claude, que la Cour suprême va décider de son immunité ou non ? Parce qu'il y a aussi la question de l'immunité qui s'inscrit dans ce schéma.
Je crois qu'il faut regarder en termes politiques, pas strictement en termes juridiques. Parce que, en termes politiques, qu'est-ce que pense Trump et est-ce que les procès en cours peuvent me gêner dans l'élection ? Il ne sera pas condamné, ça c'est certain, quel que soit le type d'instance, en raison des procédures. Il n'y aura pas de condamnation définitive. Mais il peut y avoir des condamnations provisoires. Alors, au jugement de New York, s'il est condamné à la prison, aux États-Unis, je crois, on ne fait appel, l'exécution est immédiate. Donc on verra des photos. S'il est condamné à la prison, on verra des photos de Trump, peut-être avec des menottes, ou emmené dans une prison, comme Strauss-Kahn, ce sera exactement. Et ça influencera, malgré tout, c'est là qu'est le problème politique, ça influencera la partie des électeurs républicains qui n'est pas fondamentalement déterminée, c'est-à-dire la partie des électeurs qui peut quitter le camp Trump à l'élection présidentielle et voter Biden. Et le jugement de la Cour suprême a aussi beaucoup d'importance, parce que si la Cour suprême décide qu'il n'y a pas immunité, autrement dit que tous les actes de Trump pendant sa présidence ne créent pas l'immunité qui ne pouvait être brisée que par la procédure spéciale de l'impeachment, c'est-à-dire par le Sénat et la Chambre des représentants, avec une répartition des rôles condamnant, puisqu'il n'est plus président. Ça veut dire que s'il n'y a plus d'immunité, si on peut aujourd'hui juger des actes qu'il a commis pendant sa présidence, ça veut dire qu'il va être renvoyé, il y aura un procès devant une instance, un juge fédéral. Mais évidemment, il n'y aura pas de condamnation définitive. Simplement, le reproche, le crime qui lui est imputé, c'est félonie. C'est un mot français, donc disons-le en français. C'est félonie. Félonie, ça veut dire trahison. C'est quand même, j'imagine que dans la conscience d'un Américain, entendre dire qu'un président peut être poursuivi pour trahison doit avoir un effet politique. Et donc la question politique qu'il faut se poser, est-ce que les deux décisions judiciaires, New York et la présidence, vont entamer son capital politique ? Et ça doit certainement le préoccuper et l'empêcher de dormir le soir.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec Laurence Nardon, qui est responsable du programme Amérique à l'Institut français des relations internationales, et nous parlons de la situation de Donald Trump face aux juges. Ce qui est surprenant pour nous, Laurence, c'est que le principal procès qui nous intéresse d'une certaine façon, c'est celui éventuellement du 6 janvier. Le 6 janvier, date à laquelle il y a un assaut contre le Capitole et où Trump joue un rôle. Donc on pouvait penser que c'était l'affaire la plus grave et la plus urgente. Or, on ne la voit pas venir devant un tribunal, Laurence Nardon. Comment se fait-il ?
Eh bien, parce que les équipes d'avocats de Trump ont réussi à retarder le début de ce procès qui est prévu éventuellement pour septembre, on ne sait pas encore trop. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une possibilité de retarder de 3 semaines pour telle ou telle raison, ils la saisissent.
Oui, de façon à ce que rien ne se produise avant le vote du mois de novembre pour l'élection présidentielle, en effet. Il y a un autre sujet qu'on voulait aborder avec vous, Laurence, c'est l'état des universités, des campus universitaires qui se sont tout d'un coup enflammés et avec pas des batailles rangées, mais enfin une opposition très sévère entre pro-israéliens et pro-palestiniens, essentiellement d'ailleurs pro-palestiniens. Est-ce que cela peut, d'abord, comment regardez-vous cela? Quelle est l'ampleur du phénomène d'une part? Et d'autre part, est-ce que cela peut avoir une incidence électorale, là encore, sur le vote des Américains? Est-ce que ça peut conduire, au fond, à un réflexe, j'allais dire, d'ordre qui profite cette fois à Trump et non plus à Joe Biden, qui devrait normalement être un peu mieux placé dans les universités? Laurence Nardon.
Oui, alors on voit en effet se propager dans toutes les universités du pays des protestations. Alors c'est plutôt en fait pro-palestinien, et les étudiants juifs ou les organisations auxquelles ils appartiennent sont très minoritaires en fait, et se sentent menacés, ont besoin de la protection de la police. Enfin c'est assez glaçant. Je regardais tout à l'heure avant l'émission une carte qui est sur le site du New York Times avec toutes les universités dans lesquelles les étudiants pro-palestiniens ont établi des campements de tentes sur les campus pour montrer leur soutien aux souffrances des Gazaouis. Alors, suivant les universités, la police intervient pour les déloger ou pas. On en est là. Alors, en gros, je pense qu'il y a un peu comme une sorte d'effet de mode, un peu, on revit un peu la guerre du Vietnam, si vous voulez, sur les campus. Donc, il doit y avoir beaucoup d'étudiants qui sont là parce que c'est sympa et que c'est la mode. Je ne veux pas être condescendante par rapport à des convictions politiques qu'ils peuvent avoir. Tous ne sont d'ailleurs pas antisémites, bien évidemment. Mais enfin, c'est quand même très préoccupant. Donc, je ne sais pas comment ça va évoluer sur les campus. Mais maintenant, si on parle de politique, c'est très ennuyeux, c'est très embêtant pour Joe Biden. Parce qu'en fait, quoi qu'il décide sur sa position vis-à-vis d'Israël, les administrations américaines sont alliées d'Israël, donc il est plutôt de ce camp-là. Il essaye d'avoir une parole plus modérée, plus exigeante par rapport à Benjamin Netanyahou depuis plusieurs mois.
On peut
le
même
voit.
Dire qu'il n'a pas ménagé ses efforts pour essayer d'amener Netanyahou à une attitude plus ouverte sur l'aide humanitaire, par exemple.
Absolument, sans effet jusqu'à présent.
Sans effet, enfin, notable jusqu'à présent. Oui. Ce qui doit lui coûter cher en termes électoraux aussi.
Exactement. Oui. En termes électoraux, on a vraiment l'impression que quoi qu'il fasse, il perd la moitié de son électorat. Parce que s'il est vu comme trop pro-israélien, c'est tous ces jeunes des campus, toute la gauche du parti plus largement, qui lui en veut, même au-delà des étudiants, parce que ce sont la gauche radicale du Parti démocrate, si vous voulez, voit le monde en termes d'oppresseurs et d'oppressés, et se veut évidemment du côté des opprimés. Et cette gauche du Parti démocrate lie le conflit entre Israël et le Hamas en termes d'oppresseurs qui sont les Israéliens, malgré les événements du 7 octobre, ça ne les fait pas changer d'avis. Et puis les opprimés sont bien évidemment les Palestiniens, le Hamas n'existe pas dans cette lecture, et donc ils sont donc pro-palestiniens. Et puis de l'autre côté, vous avez l'autre moitié, l'aile modérée du Parti démocrate, qui est beaucoup plus traditionnelle, beaucoup plus pro-israélienne, la seule démocratie dans la région, etc. Enfin, les arguments qu'on connaît. Et eux, s'ils ont l'impression que Joe Biden et son administration sont trop durs avec Benjamin Netanyahou, réclament trop d'aide humanitaire pour Gaza, c'est eux à ce moment-là qui vont se détourner de Biden.
Oui, c'est le parallèle avec 68 est important, d'autant plus que la convention va se dérouler à Chicago comme elle s'était déroulée à Chicago à
Exactement.
L'époque du temps de Daley, le maire de Chicago, qui avait fraudé pour permettre l'élection de Kennedy. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est que c'est vraiment un mouvement. Quand on regarde Columbia, par exemple, on sait, il y a des professeurs palestiniens à Columbia, c'est organisé, c'est une opération. Il y a beaucoup d'immigrés palestiniens aux États-Unis, ils sont très intelligents en général et influents dans l'université parce qu'ils ont souvent des emplois universitaires. Et donc c'est un mouvement, pas vraiment du Parti démocrate, c'est un mouvement pro-palestinien avec la même stratégie dans chacune des universités et un phénomène aussi d'évolution des universités qui ont depuis un certain temps des présidents qui n'ont pas beaucoup d'autorité. On prend des présidents dans des minorités, etc. La présidente de Columbia est égyptienne. La présidente de Harvard était haïtienne. Et donc des présidents faibles qui sont très, très gênés de ce conflit, d'autant que cette partie de la gauche démocrate et des Palestiniens utilise les arguments juridiques traditionnels aux États-Unis, c'est-à-dire la liberté d'expression. On a le droit de dire ce qu'on veut aux États-Unis. La liberté d'expression est beaucoup plus forte qu'en France, par exemple. Si vous voulez, il n'y a pas toute une série d'astuces juridiques qui permettent de réduire la liberté d'expression en France, comme la loi Guesso. Mais c'est gênant pour Biden à cause de Chicago et à cause de l'effet. Ceci dit, quand même, si les gens sont sincèrement démocrates, ne pas voter Biden, ça veut dire voter Trump. Alors, si j'ose dire, le risque est plus grand à ce point de vue-là.
Où en est-on de ce point de vue-là, Laurence Nardon ? Est-ce que les choses évoluent dans l'opinion ? Parce qu'il y a des sondages évidemment réguliers. Et jusqu'à présent, ce qui était marquant d'ailleurs et surprenant peut-être pour nous, c'était le retard pris par Joe Biden et l'avance qu'avait Donald Trump en termes d'intention de vote. Est-ce que les choses bougent ? Sachant que, in fine, beaucoup d'électeurs dits indépendants feront la décision, Laurence Nardon.
Si on regarde les agrégateurs de sondages, en effet, qui sont pas très fiables parce que c'est dans plusieurs mois et puis que c'est une élection fédérale, donc un sondage national ne veut pas dire grand-chose. Mais bref, on voit quand même les évolutions de tendance, vous avez raison. Et Trump, depuis des mois, avançait inexorablement par rapport à Joe Biden. Et puis, depuis quelques semaines, on a vu cette tendance s'inverser, mais pas de grand-chose. Trump qui avait 2 points d'avance sur Biden et maintenant c'est l'inverse, donc 2 points ça, dans les deux sens.
Deux points, c'est la marge d'erreur. Oui.
Exactement. Mais enfin, on voit une tendance. Alors pourquoi est-ce que ça va mieux pour Biden ? Probablement parce que l'économie américaine continue à aller bien et que les électeurs commencent à s'en rendre compte. C'est-à-dire que l'inflation qui était très forte, elle est montée jusqu'à 9 points en juin 2022, c'est réduite, c'est stabilisé, et donc les prix ne baissent pas, mais enfin ils cessent d'augmenter. Et ça, les électeurs commencent à s'en rendre compte. Peut-être que voir Trump sur le banc des accusés n'est pas bon pour lui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Puis à l'inverse, il y a ces histoires sur les campus qui sont peut-être potentiellement une catastrophe pour Biden, sauf si, comme vous le disiez, le camp démocrate réussit à mobiliser tous ces jeunes pro-palestiniens, tous les indépendants aussi, en leur disant que l'alternative, une réélection de Trump,
est pour eux pire que tout. De facto, voter Trump, en tout cas. C'est ça, c'est l'argument principal que l'on peut leur opposer. Jean-Claude.
Les deux atouts de Biden, c'est l'image de Trump à la suite des procès et le succès économique. Pour le reste, il a des défauts, son âge, et puis la gauche du parti démocrate.
Oui, son âge, et puis les nombreuses gaffes qu'il fait. Une fois, il pensait avoir rencontré François Mitterrand.
Oui,
une autre fois, il confond Haïfa et Rafa. Enfin bref, mais en même temps, j'ai l'impression que ça a moins d'importance aujourd'hui que ça n'en a eu un moment sur l'image de Joe Biden. Voilà, notre temps est écoulé, donc nous allons vous remercier, Laurence Nardon, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Laurence Nardon, donc, je rappelle, qui est responsable du programme Amérique à l'IFRI et qui est présente chaque semaine sur un podcast qui s'appelle New Deal et qui est coédité par l'IFRI et par Slate. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.